Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes dans votre émission Courrier de mission et nous allons vous donner des nouvelles du DEFAP, votre service protestant de mission, avec le pasteur Basile Zuma, secrétaire général. Bonjour Basile.
Bonjour Florence.
Et moi-même, donc pasteur Florence Tobman, secrétaire exécutive au DEFAP, chargée de l'animation du pôle France. Alors, les nouvelles, chers amis, les nouvelles, quelles sont ces nouvelles ? Eh bien, ce ne sont pas des nouvelles très nouvelles, puisque nous sommes comme vous, depuis presque un an, nous vivons au rythme de ce mot qui envahit nos oreilles et nos yeux sur les écrans, le mot Covid. Alors, Basile, vous allez nous donner quand même des nouvelles du DEFAP, parce que même si la situation n'a pas été facile cette année, même si nos voyages ont pour la plupart été annulés, même si nos étudiants boursiers n'ont pas pu venir rejoindre nos facultés de théologie, il s'est quand même passé des choses dans notre maison du 102 boulevard Arago.
Tout à fait. Merci Florence. C'est vrai que depuis le mois de mars 2020, le DEFAP, comme on peut le noter quand on arrive devant ces locaux, Service protestant de mission et de relations internationales. Donc effectivement, la partie internationale a souffert depuis mars 2020 de l'impossibilité de voyager. Et quelqu'un utilisait cette formule que je trouve tout à fait juste. Le DEFAP est cloué au sol depuis que la crise Covid nous empêche de voyager. Donc mais cette immobilité en termes de voyage n'est pas une immobilité en termes d'action. On reste disponible parce que le DEFAP, comme vous le présentez, Florence, est non seulement à l'international, mais il y a aussi un service d'animation France. Donc le DEFAP est en France parce que service des trois familles d'églises, UNEPREF, EPDF et UEPAL. Et le DEFAP est aussi à l'international. Donc nous avons tout fait pour garder déjà le lien, parce que le cœur de métier du DEFAP, c'est la relation. Et pour être en relation, on n'a pas forcément nécessairement besoin d'être sur le terrain. Et on peut être reconnaissant des outils techniques qui sont à notre disposition pour garder le lien avec nos partenaires. Et nous essayons non seulement d'animer la vie localement au centre du boulevard Arago, qui est lieu de rencontre et d'accueil, des salles disponibles pour des locations, une bibliothèque ouverte pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur la mission, et puis effectivement des espaces et des lieux de réflexion autour des outils qui nous sont disponibles avec nos partenaires à l'international.
Est-ce qu'on peut ajouter en plus, Basile, sur le plan de l'action concrète, donc vous savez que le DEFAP, donc, en effet, entretient, cultive des relations par l'échange, par les visites, par l'accueil notamment de professeurs et d'étudiants boursiers qui viennent faire leur doctorat, aussi en envoyant donc, des jeunes en service civique et en volontariat solidarité internationale, et ça a été bloqué cette année, bien sûr, à cause du Covid. Et il existe aussi des projets. Alors, la plupart des projets qui ont été décidés par la commission des projets et par le conseil du DEFAP ont pu être réalisés, donc dans les différents pays, genre restauration d'écoles, divers projets. Financement de projets sur le terrain. Donc ça a pu quand même continuer. Et puis, en plus, on a essayé aussi de marquer notre solidarité par des subventions ou en abondant, si vous voulez, à des fonds de solidarité sur place, notamment dans les lieux d'enseignement, c'est-à-dire les facultés. Et puis les écoles, collèges, lycées, parce que dans les pays avec lesquels nous sommes en relation, les professeurs très souvent ne sont pas payés quand il y a un confinement, quand il n'y a pas d'élèves à l'école, quand il n'y a pas d'étudiants. Et donc, on a pu quand même, grâce à vous, donc grâce aux églises hein, qui abondent au DFAP, grâce à vous, on a pu aider quand même des professeurs, donc notamment à Madagascar ou au Cameroun,
au Congo,
hein, au Congo, enfin dans différents pays, dans des mesures très enfin, pas dans des grosses proportions, si vous voulez, mais ça a été très significatif et ça a bien marqué. Enfin, la fraternité de nos relations, je crois que c'est important. Quand on a des soucis, on les partage, on partage dans la prière, on essayait de partager aussi dans une entraide.
Tout à fait.
Voilà. Et alors, par ailleurs, nous avons quand même... Alors, au niveau de la France, ça a été pareil, les déplacements ont été quand même difficiles et réduits à cause de ce Covid, toujours ce Covid. Mais nous avons profité de ce temps pour continuer notre réflexion sur le sens de la mission aujourd'hui. Cette réflexion, elle n'est pas nouvelle. Depuis que la mission existe, on réfléchit sur la mission, donc ça fait à peu près 2000 ans. Et c'est toujours à nouveau frais qu'on le fait. Mais on a commencé, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé donc une réflexion sur la mission avec nos trois églises constitutives, donc l'UEPAL, l'EPUDF et l'UNEPREF. Un premier temps de réflexion nous avait rassemblés en octobre 2019 sur le thème « Vers une nouvelle économie de la mission, parole aux églises ». Les trois présidents des trois églises avaient assuré une table ronde fort intéressante en réfléchissant sur les mots, justement, mission, évangélisation, témoignage, etc. Et on avait noté une convergence pour affirmer le besoin aujourd'hui de formation en interculturalité. C'est-à-dire que la prise en compte du multiculturalisme de notre société et du multiculturalisme aussi de nos églises et du christianisme en France aujourd'hui rend nécessaire cette formation pour tous d'un dialogue entre les cultures et puis peut-être de l'élaboration d'une théologie interculturelle, où les différentes voix se font entendre, et les différentes cultures, et les différentes sensibilités.
Tout à fait. D'ailleurs, cela part aussi de cette dynamique dont Florence et Claire-Lise avaient parlé lors d'une émission ici, autour des 50 ans, dont le thème est « Le monde change », la mission aussi. Donc, quelque part, c'est aussi dit que la réflexion sur la mission est une réflexion toujours à renouveler. Et dans ce cadre-là, effectivement, le DFAP, comme vous le dites, avait effectivement initié un certain nombre de réflexions, on peut dire quelque part d'actualisation ou de se poser à nouveau frais le sens de la mission, ou au moins le sens qu'a la mission pour les églises, à partir du moment où le DFAP, qui reste un corps ecclésial, participe de cette mission-là. Donc c'est dans ce cadre-là que vous évoquez tout à fait la question de ce temps de réflexion. Et effectivement, vous avez parlé du projet qui a eu lieu en octobre 2019, et puis pour la suite qui devait avoir lieu dans un forum, et il y a la thématique dont vous pouvez nous en parler maintenant.
Oui, alors la suite de cette réflexion, c'était donc un rassemblement prévu à 7 au mois de mai qui n'a pas pu avoir lieu et qui a été reporté donc en avril 2021, donc dans quelques mois. Et là encore, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la possibilité de tenir ces ateliers de la mission, comme on les a nommés. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, la réflexion va se poursuivre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les visioconférences, etc., on a vu qu'on pouvait tenir pas mal de rassemblements, quand même, qu'on pouvait se concerter quand même sur pas mal de questions très importantes, et notamment avec nos partenaires à l'étranger. Alors, ce thème, c'est « Chrétiens tous ensemble pour le monde ». Quelle mission partagée, donc quelle mission au singulier et au pluriel, avec une réflexion donc sur la mission, un mot, un être, un faire, et une réflexion donc sur Qui sera conduite par le professeur Zorn, qui bientôt nous donnera le résultat de ses travaux, justement, sur un état des lieux, si vous voulez, sur ce terme, et une réflexion aujourd'hui nécessaire sur les fondements de la mission. En fait, pourquoi la mission ? Encore une fois, je le dis, on ne croit pas qu'on invente la Lune aujourd'hui, ni le fil à couper le beurre, puisque c'est une question qui se pose dès le début, et on voit bien que dans les évangiles, Jésus envoie ses disciples en mission pour partager l'évangile avec la terre entière. Donc l'évangile étant l'annonce d'un amour de Dieu qui sauve les hommes, qui les fait, hommes et femmes, qui les fait vivre. Donc cette mission, elle fait partie, elle est intégrante de l'évangile. C'est l'évangile même qui est mission d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger, sur ces fondements. Biblique, théologique et anthropologique de la mission. Et c'est vrai que dans notre travail de préparation à ces ateliers de la mission, on a posé trois pistes de réflexion. La question de l'universalisme, puisqu'on voit bien que la Bible est universaliste, déjà dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, déjà dans la création du monde, déjà dans le cycle de Noé, déjà dans Abraham, bénédiction pour toutes les nations, déjà chez les prophètes, etc., etc. Et puis bien sûr, dans l'incarnation du Christ pour le monde. Donc la question de l'universalisme, la question du personnalisme, parce que ce qu'il y a de très spécifique à la pensée, à la culture judéo-chrétienne, c'est bien l'affirmation de l'être humain masculin et féminin comme être unique, singulier, irremplaçable et irréductible au groupe, irréductible au groupe, irréductible à la multitude. Et je crois que ça, c'est ce qui a marqué aussi toute l'histoire de notre pensée occidentale et européenne, occidentale, et puis finalement universelle. Enfin, c'est l'apport de cette pensée au monde. Et on sait combien, justement, les réformateurs, à leur époque, ont donné de la chair à cette affirmation de l'individu avec sa conscience personnelle. Donc voilà. Donc l'universalisme, le personnalisme et la troisième piste de réflexion, ce serait alors plus spécifiquement aujourd'hui l'interculturalisme, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui on s'ouvre davantage aux manières de penser et de comprendre des autres cultures. Par rapport à ces questions-là. Parce qu'on est, plus dans l'affirmation d'une espèce de suprématie européenne, occidentale ou autre, mais aujourd'hui, il y a vraiment une grande nécessité de réciprocité, d'enrichissement mutuel, de dialogue avec vraiment un sentiment d'égalité. Ça, c'est très important parce qu'on est quand même, on reste quand même très souvent avec une forme de condescendance ou avec quand même au fond de soi une espèce d'impression que quand même, on est un peu plus avancé ou plus je sais pas quoi, mais voilà.
Et si on revenait effectivement sur ces ateliers de la mission dont vous parlez, qui initialement auraient dû avoir lieu au mois de mai dernier, et puis à cause de la situation, cela n'a pas pu avoir lieu et qui a été repoussé pour avril, mais on est tout à fait aussi, on tient compte des réalités du moment pour voir est-ce que éventuellement cela peut avoir lieu. Dans le projet autour de cette réflexion, il y a trois mots que vous avez cités. Est-ce que vous pouvez peut-être les décliner un peu plus, à savoir la mission, vous parlez d'un mot, vous parlez ensuite d'un être et d'un faire. Quelque part, ces trois éléments sont portés quand même d'un contenu qui serait intéressant de dire à nos auditeurs pourquoi effectivement a été décomposé de cette manière-là.
Oui, merci Basile pour votre question, parce que c'est vrai que, en fait, la question du mot mission, c'est justement, c'est à la fois sa richesse extraordinaire et aussi sa problématique, sa complexité et puis aussi ses connotations difficile, voire négatif, faut le dire, dans l'histoire. Parce que très souvent, on a associé le mot mission au mot colonialisme ou au mot impérialisme ou à cette idée donc qu'on allait que la mission était chargée de civiliser des gens ou des peuples sans culture qui étaient comme les comme de simples réceptacles aux beautés des cultures qu'on allait leur apporter et aux beautés du christianisme. Voilà, donc ce mot mission l'idée est qu'il faut réétudier, le revisiter, ce mot mission, justement, pour vraiment aussi en voir les richesses de l'histoire aussi, parce qu'il n'y a pas que des, il n'y a pas que des choses négatives dans les missions. Il y a eu une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, etc. Donc, revisiter ce mot mission, ses retentissements aujourd'hui, la nécessité de faire vivre la mission aujourd'hui, on voit bien aussi dans les mondes évangéliques et catholiques comme c'est important aujourd'hui, la nouvelle mission d'évangélisation. Et puis ensuite, mais je vais d'abord laisser place à la musique et ensuite nous parlerons de l'être et du faire de la mission. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien dans votre émission Courrier de mission et nous vous donnons, le pasteur Basile Zouma et moi-même, le pasteur Florence Thomann, des nouvelles du DEFAP, votre service protestant de mission. Et donc nous étions en train de parler de ces ateliers de la mission que nous avons prévus, que nous aurons peut-être du mal à tenir, mais que dont le thème néanmoins est en travail et va continuer d'être travaillé et approfondi. Et après la question du mot mission et de toutes ces connotations qu'il faut revisiter, la question est de savoir quel est l'être de la mission. Qu'entend-on par le mot être de la mission, puisque dans nos ateliers de mission le thème c'était chrétiens tous ensemble pour le monde, quelle mission partager, la mission, un mot, un être, un faire. Donc on a vu pour le mot. Pour l'être, il s'agit justement de ces fondements que j'évoquais tout à l'heure, fondements théologiques, fondements anthropologiques, et bien sûr avant tout fondements bibliques de la mission, donc, c'est-à-dire les motivations profondes de la mission. Que pense-t-on, qu'est-on certain même d'avoir à apporter au monde pour aller vers le monde, partager cela. Enfin, voilà, donc il est vraiment question de ces motivations et de ces fondements. Et nous avions parlé justement de donc cet universalisme qui nous fait voir comme un devoir de faire connaître la foi chrétienne, non pour l'imposer au monde, non pour intégrer de force des individus ou des peuples, non pour les christianiser, n'est-ce pas, mais bien pour faire connaître, pour rendre disponible cette bonne nouvelle, pour la rendre disponible, audible, compréhensible, afin que tout un chacun puisse l'accepter ou la refuser, ou l'entendre à sa manière, en sachant que Dieu s'adresse à elle ou à lui. Voilà, voilà pour l'universalisme. Pour le personnalisme, il s'agit bien évidemment de la valeur de chaque être humain au monde, de la dignité de l'être humain. Donc ça aussi, voilà, ça va avec l'universalisme, puisque c'est tout être humain, hein, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, etc. Tous sont concernés par cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quid de ce personnalisme ? Et aujourd'hui, justement, où on voit combien l'humain est contesté par différentes philosophies, le transhumanisme, des formes d'écologie extrême aussi, etc., etc. Donc c'est important de se dire, quid de cette personne humaine ? Quid aussi des excès peut-être de l'individualisme aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, il y a vraiment matière à réfléchir sur ces questions-là. Et puis, la dernière question, c'était l'interculturalisme, c'est-à-dire vraiment la reconnaissance de la valeur des différentes cultures par rapport aux questions fondamentales de la vie et du monde. Je compare pour ma part, et avec Basile, nous avions une conversation là-dessus ce matin, ce multiculturalisme, c'est le rapport entre ces différentes cultures avec le rapport entre les différentes langues. On sait que chaque langue a son propre rapport à la vérité, à la beauté, à l'amour, à Dieu, et qu'il y a des systèmes de cohérence avec des poésies particulières propres à chaque langue. Et on peut dire que pour les cultures, c'est un peu... On peut créer une analogie, voilà. Mmh. Et donc, c'est dans cet esprit, nous avons vraiment devant nous un chantier justement pour des théologies interculturelles.
Donc, on peut bien entendre dans le mot mission, et vous l'avez évoqué dans vos paroles, c'est que effectivement ce mot a une histoire et ce mot a besoin quelque part d'être revu d'une certaine manière parce que bon, il me semble que tout mot a une histoire, elle est plus ou moins heureuse et que devant la première difficulté, parce que effectivement, pour le dire aussi de façon claire, c'est que dans les différentes rencontres qu'on a, c'est que quelque part le mot mission est attaché à son histoire, attaché à un mot, habituellement qu'on dit colonisation, quelque part, donc ça fait qu'aujourd'hui, il nous est quand même intéressant de revisiter le mot, de ne pas le laisser piéger dans son histoire, mais de voir quel type, effectivement, d'actualité on peut lui donner, avec toute la richesse, toute la charge positive dont vous parlez, pour effectivement l'utiliser déjà à nouveau frais. Mm-hmm. Vous voulez aussi dire un mot sur l'être ou sur le faire ?
Sur le faire, alors, notre ambition, si vous voulez, c'est peut-être en revisitant ces fondements de la mission, en revisitant ce mot mission, en faisant un état des lieux aujourd'hui, en ayant les yeux ouverts sur les autres églises, aussi sur les autres pays, sur les autres sensibilités, sur les autres cultures, finalement, se dire quel est notre travail aujourd'hui de chrétien ? Ensemble, en tenant compte aussi de la composition de nos églises, en tenant compte de nos relations avec les églises mosaïques, etc. Concrètement, quelles actions communes ? Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres ? Alors, dans la question de l'évangélisation, quelle évangélisation aujourd'hui ? Dans la question de la transmission de la foi aux jeunes générations ? Comment les uns et les autres agissent, comment ils se comportent, quelles actions, quels enseignements, quelles transmissions, dans la question évidemment de l'entraide aussi, dans la question de la communication, de l'information, comment remettre pour notre part la mission au cœur de nos églises locales et régionales. Comment mettre de ce fait la communication de la mission au cœur de la communication des églises locales et régionales ? C'est comment travailler mieux ensemble. Voilà. Et ce sont des chantiers qu'on a aussi devant nous avec ce travail vraiment central qui est la formation à la rencontre et au dialogue interculturel. Formation qui pourrait s'adresser aussi bien aux jeunes envoyés qui partent, comme cela se fait déjà chaque année au DEFAP, que aux étudiants qui arrivent pour étudier dans nos facultés, que aux professeurs qui vont les accueillir. Comment peuvent-ils mieux connaître la culture des personnes qu'ils vont accueillir ? Aussi bien aux membres de nos églises, quand ces mêmes églises locales, par exemple, vont accueillir un nouveau pasteur venu d'une autre culture, d'un autre pays, comment, vous voyez, c'est à plusieurs niveaux qu'on peut imaginer cette formation à l'interculturel qui devrait être centrale aujourd'hui et demain.
Donc effectivement, ça, je pense que dans la manière dont la thématique est déclinée, un mot, un être, un faire, on est quelque part, je dirais, un peu au cœur, je dis, de l'engagement du DEFAP, c'est-à-dire nous sommes, c'est d'abord un lieu de relation, donc être avec les autres. Et puis, une fois qu'on est ou nous sommes être avec les autres, on a cette opportunité, en deuxième lieu, de faire avec eux. Voilà. Et pour faire avec, nos partenaires, c'est quelque part d'être outillé. Voilà, dans le faire, c'est outillé, avoir les éléments de formation, d'être nourri, effectivement, de la richesse interculturelle. Et effectivement, nous, on fait bien la part entre multiculturalité qui, de mon point de vue, est une juxtaposition de cultures différentes. Et l'interculturalité, c'est plutôt la rencontre, le croisement, la façon de se rencontrer. Quelquefois, il peut y avoir des étincelles, mais c'est un lieu où on apprend à se connaître, à se déplacer, à se nourrir et à faire communément des actions. Donc, à ouvrir d'une certaine manière l'Église de façon plus large que celle locale, mais l'Église est d'abord ici, là-bas et dans les quatre coins du monde, comme nous dit le livre des Actes. Voilà, c'est pas que nous, mais nous, avec le monde et dans le monde.
Oui, pour que chacun puisse entendre l'évangile dans sa langue maternelle, comme ça se passe à Pentecôte.
C'est ça, tout à fait. Chacun entendait dans sa propre langue.
Dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, donc dans la langue de son cœur. La langue maternelle, c'est la langue du cœur, la langue des petits mots doux.
Tout à fait.
Voilà, et bon, eh bien écoutez, nous espérons, chers auditeurs, chères auditrices, que nous pourrons bientôt vous donner de nouvelles bonnes nouvelles pour vous dire que ce forum, ces ateliers de la mission pourront peut-être se tenir et nous espérons sortir de la visioconférence quand même pour un jour pouvoir à nouveau être en présentiel ou en présence les uns avec les autres au Lazaret, pourquoi pas, comme c'était prévu, comme c'est encore prévu d'ailleurs pour l'instant, mais nous doutons que ce soit possible, mais nous partagerons en tout cas, nous continuerons de partager avec vous les avancées de notre réflexion. Merci. Boom.